Merci beaucoup, Maxime.
Plaisir.
Piscine, sauna, spa, chez toi?
Moi, je suis plus plus piscine. Ouais. Mon Dieu, plus pas piscine, moi, piscine.
Ouais, piscine. Ouais. On va te donner des bons conseils tout de suite. Joël-Éric Mignot, qui est consultant expert en piscine pour groupe Quaitrel. Bonjour,
bon matin.
Joël-Éric. Ça va bien?
Très bien, vous?
Excellent, excellent. Alors, on va demander aux gens de participer, si vous voulez bien, pendant qu'on va donner quelques petits conseils. Vous pouvez nous téléphoner au 514-790-9850. Ou si vous êtes de l'extérieur, 1-866-790-9850. Posez-nous vos questions. N'importe quel conseil, on va vous en donner des conseils ce matin et c'est gratuit en plus. Ou encore via texto 98985. Première question, qu'est-ce qu'il faut vérifier en début de saison?
Bien, premièrement, lorsqu'on va aller marcher autour de la piscine, on va regarder son niveau d'eau, si la toile est décrochée. On doit retrouver notre piscine pleine pratiquement jusqu'au bord au printemps. Si c'est pas le cas, bien, ça témoigne peut-être qu'il y a un problème de fuite à la toile ou à certains accessoires comme les lumières qui pourraient perdre de l'eau. Fait qu'on fait une inspection visuelle. On va vérifier son inventaire de produits chimiques. Souvent, on va partir et on va acheter des kits de démarrage ou des choses, puis on n'a pas peut-être déjà les produits en main à la maison. Vérifie l'état de vos accessoires d'entretien. Il va falloir nettoyer la piscine, passer la balayeuse, avoir le filet à feuilles en main. Fait que vérifier l'état de vos accessoires.
Parce qu'habituellement, au printemps, il y a des feuilles dans le fond. Ils flottent pas, les feuilles, ils sont rentrés au fond.
Ouais. Oui, tout dépendamment où on habite.
Alors oui, puis le drain de fond, c'est lui qui écope en premier.
Exactement. Inspecter la filtration, la plomberie apparente, la pompe. Il y a pu avoir peut-être de l'eau oubliée ou des débris dus au gel. Fait que c'est de faire, en partant, une inspection visuelle de ce qu'on a à la maison.
Bon, les principales erreurs qu'on va faire lorsqu'on va partir de notre piscine, c'est quoi?
Bien, en premier lieu, c'est de trop attendre pour l'ouvrir. Le plus tôt, c'est le mieux.
Oui, mais là, il n'est pas frais.
Bien, justement, on en profite. Comme c'est pas le temps de prendre des bains de soleil, on va en profiter pour préparer la piscine et de la nettoyer. C'est vraiment le bon temps pour ça. L'erreur par la suite qui est faite souvent, c'est d'ajouter des produits. On va regarder la piscine est verte ou est noire. Et puis, on va mettre des produits chimiques en pensant que ça va avoir une réaction miracle et que la piscine va être belle. Même à l'aveuglette, il faut commencer à nettoyer, à ramasser les végétaux, les feuilles. Passer l'aspirateur en position waste, en position drain, avant de mettre la filtration en mode filtration. Donc, c'est
pour sortir le maximum de cochonneries.
Il faut. L'idée, c'est de nettoyer, qu'elle soit propre, qu'elle soit un peu ou beaucoup sale. C'est de faire un très bon nettoyage avant de commencer quoi que ce soit.
Bon, alors, j'ai justement une question. Luc de Laval, qui a un système au sel, faut-tu mettre un trait de penchoc là-dedans quand même, là, au départ? Là?
Il faut faire ce qu'on a dit précédemment, la nettoyer. Quand on a une piscine au sel, la salaison, d'ajouter du sel au printemps, ne donne rien vraiment avant que l'eau soit en haut de 75 degrés. Donc, il faut opérer la piscine un petit peu au clair. Et oui, lorsqu'on va avoir nettoyé la piscine, balancé la piscine, on va faire une surchloration printanière avant de débuter la saison. Et puis, on va attendre que l'eau soit en haut de 75 pour faire la salaison et mettre le générateur de chlore en fonction.
Oui, parce qu'en réalité, là, c'est de chlore qu'on va chercher du sel. Hein?
Tout à fait. Et le fait d'être à l'eau salée n'a rien d'incompatible avec tout le reste des autres produits qu'on utilise.
Ah non?
Non, aucunement.
On peut mettre du chlore pareil, puis ça change rien.
Exactement. Ce qui fait qu'au printemps, vous pouvez utiliser un chlore en granule, un hypochlorite de calcium HTH ou d'une autre marque pour tout simplement débuter la saison.
Bon. Alors, les premières étapes quand on songe à s'acheter une piscine maintenant, on parlera tantôt de l'entretien là, de façon générale, là, mais les premières étapes, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai comme l'impression qu'acheter une piscine, c'est comme acheter une maison. C'est très émotif.
Oui, et c'est rendu que ce qui s'offre à vous, la palette de choix est très large. Fait que commencez par vous asseoir, réfléchir à quelles vont être vos attentes et vos besoins. C'est pour qui et pourquoi on veut une piscine? Est-ce que c'est pour nous les parents? Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce qu'on aime recevoir? C'est pour la famille? Et où on aime ça recevoir puis faire des gros parties? Ça va déterminer déjà là différentes choses tant qu'au choix qu'on va faire. Ça peut être pour la détente, s'amuser, faire de l'exercice, s'entraîner. Pour certains, même de la réhabilitation. Et il y en a qui vont vouloir avoir un point d'eau dans leur cour pour que ça ait aussi un « wow factor », que ça soit beau à l'œil d'avoir un plan d'eau dans sa cour. C'est apaisant. Il y en a qui vont s'asseoir près de la piscine pour lire. c'est un élément de détente différent. Fait qu'il faut établir ses attentes et ses besoins. Et je vous dirais que la première chose à faire, peut-être avant même d'acheter, vous pouvez consulter, aller dans des magasins, poser des questions. Et d'un magasin à l'autre, vous allez voir que les questions qu'ils vont vous poser et vos réponses vont vous faire réfléchir sur la profondeur de vos attentes et de vos besoins. Donc, il y a de mes amis qui vendent des piscines qui n'aimeront pas ce que je vais dire, mais n'achetez pas tout de suite une piscine à votre première visite. Prenez le temps de consulter.
On en voit deux, trois?
Oui, l'idée, des fois, je dirais deux, c'est déjà bien. Trois, on tombe dans l'analyse. Deux, on reste dans le choix. Trois, on tombe dans l'analyse. Je limiterais à deux.
Non, on magasine, là. Ouais. Question, il y a beaucoup de choix qui s'offrent, là, bien sûr. Piscine hors terre, piscine creusée, le spa, etc. C'est tous des plans d'eau. Là. C'est dépendamment des... Il y en a des gros spas maintenant. Là. C'est quasiment des piscines.
Oui.
Hein, où on peut faire de la natation à l'intérieur même. Là. Le choix se fait comment? Là? Ça dépend de ce qu'on veut faire.
Bien, ça revient à l'espace qu'on... Prenez votre certificat de localisation. Mm-hmm. Regardez l'espace que vous avez disponible. Consultez la réglementation en ligne au niveau municipal. Et déjà là, ça va venir limiter et dimensionner ce que vous pouvez faire. Fait que c'est déjà là consulter.
Parce qu'il y a le prix aussi là-dedans là, qui compte, là, parce que là, tu peux partir à 1 000 $, mais tu peux finir très, très élevé.
Oui, dans les attentes et les besoins, comme je disais plus tôt, c'est aussi rattaché à ça un budget. En pensant aussi qu'il n'y a pas juste le coût d'acquisition, il y aura, au niveau de la piscine, il y aura la clôture. Il y aura probablement de l'aménagement paysager. Il y aura à réparer le terrain parce que les gens vont débarquer là chez vous avec de la machinerie.
Oui, surtout pour les piscines creusées.
Exactement. Dans la majorité des cas, les coûts de l'électricien n'est pas inclus dans le coût de vente de la piscine. Mm-hmm. Fait qu'il faut associer à ça aussi les coûts de l'électricien. Et l'entretien, la réparation de vos équipements qui vont faire partie du coût global d'acquisition de votre piscine.
Bon, une piscine hors terre, c'est une piscine hors terre. Que ce soit 12 ou 28 pieds, là, pour moi, c'est une piscine hors terre. Ou le rectangulaire, 12 par 30 de long, là, c'est toute la même chose. Moi, c'est tout le même principe. Moi, c'est des piscines creusées. Là, tu peux te la faire creuser et te la faire monter sur place. Ou encore les fameuses monocoques.
Carrément.
C'est quoi le choix? Là? C'est quoi le meilleur entre les deux? Le monocoque, c'est quoi la différence entre la faire monter sur place avec une toile?
Je vais être bien honnête avec vous. Chaque type de construction comporte ses avantages et ses inconvénients. On peut choisir une monocoque, ça peut être pour la rapidité de l'installation, et la simplicité. On fait le trou, on met la coquille.
On met de l'eau puis tu te baignes le soir.
On peut pratiquement se baigner la journée même. Fait qu'il y a différents facteurs qui vont amener notre choix, notre sélection. Certains vont déjà avoir eu, par exemple, une piscine en béton et ont eu des problèmes avec la peinture ou la céramique. Ils ont dit, moi, plus jamais, ça sera le béton. Une piscine, d'emblée, quelle qu'elle soit, ce qui va faire que vous allez apprécier le produit fini, c'est qu'il réponde à vos attentes, vos besoins et qu'il ait été bien installé.
Oui, quand c'est bien installé et surtout bien entretenu après, là, parce
tout
que
à fait.
Soit, j'en ai eu une piscine creusée, la toile a duré 15 ans. Alors, 15 ans, il y en a un qui me dit, oui, c'est extraordinaire, habituellement c'est 10 ans. Là, fait que...
J'ai un ami, sans faire de blague avec ça, j'ai un ami qui m'a contacté il y a quelques jours, puis il me dit, il prévoit une construction majeure l'année prochaine sur une nouvelle résidence en construction. Puis cet été, il dit, on veut se rafraîchir, patati patata, puis il dit, je veux pas m'embarquer dans de quoi de trop compliqué. J'ai dit, va vers une piscine gonflable.
Oui, c'est vrai, c'est l'autre solution.
Pour une solution... ponctuel, rapide, sans dire que je m'embarque dans des travaux d'envergure ou quoi que ce soit. C'est pour vous dire que chaque type de produit va rencontrer les attentes et les besoins d'un consommateur.
Bon, ben très bien. Il est 10h43. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Vous nous joignez au 514-790-9850 pour la région métropolitaine. Pour les gens de l'extérieur, 1-866-790-9850. Joël-Éric Mignot, consultant expert en piscine du groupe Quétrel, est avec nous pour répondre à vos questions. J'en ai déjà plusieurs via texto au 98985. On vous revient dans un instant.
Jusqu'à 11h, vous écoutez le magazine du week-end. Week-end Extra. Avec François Gagnon.
Alors, je rappelle les numéros de téléphone. Bon, je suis en train de perdre mes questions, là. Numéro de téléphone, 514-790-9850. Encore, pour les gens de l'extérieur de Montréal, 1-866-790-9850. mais j'ai beaucoup de questions via texto. Joël-Éric, via le 98985. On va y aller tout de suite. Je suis à la recherche d'un chauffe-eau. Est-ce le Nirvana, une thermopompe, pour avoir une thermopompe fiable, est-ce que 50 000 BTU, c'est suffisant pour 21 pieds ronds?
Fort probable, oui, tout à fait. Ce qu'il faut regarder dans la sélection d'équipement, je peux vous donner une règle du pouce. Mmh. Prenez le volume d'eau en litres de votre piscine et vous avez besoin approximativement de l'équivalent en BTU de chauffage dans la sélection de votre produit. Ou on va prendre notre surface d'eau en pieds carrés et on va multiplier par 125. Et ça aussi va nous donner une évaluation en BTU de ce qu'on a besoin. Et ça, c'est une évaluation qui est faite pour une période, par exemple, pour le commun des mortels qui se baigne de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du travail.
Okay.
Quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais être capable d'utiliser ma piscine plus tôt en saison, fin avril, début mai, s'il y a des belles journées, et d'étirer la saison jusqu'en octobre, votre période d'utilisation peut être aussi déterminante de la sélection du type de chauffe-eau que vous allez faire. Raison pour laquelle il faut être bien conseillé en magasin.
Et une bonne toile solaire aussi, ça aide
ça va aider.
Considérablement pour sauver de l'argent.
Oui, et s'abriter du vent.
Ah?
L'un des pires ennemis de la piscine, c'est comme le meilleur exemple que je peux vous donner.
La gueule de montagne.
Ou ce que vous faites pour refroidir votre soupe.
Ah, OK.
Hein, vous soufflez dessus.
Ouais.
Et le vent, les pertes énergétiques par convection. Fait que de se positionner des abris, des arbres ou des choses.
Les nouveaux kits de chauffage solaire qu'on peut installer sur le cabanon ou encore sur le toit de la maison, c'est utile ou pas, ça?
Ça peut être très bon.
Ouais.
Ça peut être aussi un refroidisseur d'eau. Je vous explique.
Les
nuits fraîches.
Ouais.
Les nuits fraîches. Alors, il faut...
Tu le coupes à ce moment-là?
Oui, mais c'est ça. Il faut avoir la discipline. Si on n'a pas automatisé le processus avec des sondes de température et un actuateur, il faut avoir l'habitude d'aller fermer sa valve la nuit.
Et une dernière, électrique ou au gaz? Moi, j'étais très partisan du gaz parce que d'abord, je pouvais le fermer plus vite. Deuxièmement, ça allait pas mal plus vite comme chauffage.
Tout à fait. On va opter pour le gaz pour sa puissance.
Mm-hmm.
Si vous êtes un consommateur qui veut dire « je veux augmenter ma température d'eau aujourd'hui de 10 degrés », ça vous prend un chauffe-eau au gaz.
Mm-hmm.
Si vous êtes quelqu'un qui veut faire du maintien, vous voulez l'eau du printemps jusqu'à l'automne à 86, on n'utilise pas le gaz, ça va vous coûter 1 800 à 2 500 $ de gaz pour l'été. C'est vraiment pour le gaz et pour du chauffage ponctuel. Et la thermopompe électrique est un très bon choix pour un maintien.
Meilleure façon de changer le sable du filtreur?
Mon doux, pour quelqu'un qui veut le faire soi-même...
Tu dévisses les 5 vis du dessus, puis tu le lèves, puis tu le pompes.
Bien, on peut utiliser un aspirateur de type choc-vac qui va nous aider, parce qu'il faut défaire toutes les connexions, finir par coucher le filtre sur le côté pour en faciliter la vidange du sable.
C'est pas de miracle là-dedans.
Non, non, c'est du jus de bras beaucoup.
Oui, effectivement. Effectivement. Et l'autre façon aussi, il y a peut-être juste... le nettoyage, parce que ça existe aussi des produits pour nettoyer ton filtreur. Là.
Oui, il existe des produits qu'on va laisser tremper dans le filtre qui vont servir à décalcifier ou à dégraisser le média filtrant. Ça n'empêchera pas que s'il y a eu, au fil du temps, des matières végétales qui ont pénétré le sable, qui sont logées au centre, ça ne nous permettra pas de s'en débarrasser.
Okay.
Fait que, quand on ouvre la tête du filtreur, on va avec notre bras fouiller dans le sable, puis si on rencontre...
Si la main est verte, change-le.
Si on rencontre des ping-ping ou des motons en cours de route, il est préférable de le remplacer au complet.
OK. Ça se fait à quelle échéance? 3 ans, 5 ans? Ça dépend de dans quelle région on est.
Oui, puis quelqu'un qui va avoir fait un bon entretien, qui ne laisse pas opérer sa piscine pendant que l'eau est verte, qui garde son eau belle, qui fait ses backwash, ses lavages à contre-courant de façon assidue, pourrait faire 10 ans avec son sable facile.
Ah oui?
Fait qu'on va devoir nettoyer ou remplacer prématurément le sable si on a un peu négligé son entretien.
Ça, tu fais ça une fois, là, puis je te garantis que t'es moins négligent après.
Tout à fait. Ouais.
C'est une journée à faire, là. C'est exigeant. Puis c'est pesant. Un sac de sable, là. Tu sais, un gros filtreur de 300 livres, là, tabarouette, ça
va faire aller chercher.
C'est Stéphane? Stéphane au téléphone, oui. On vous écoute, Stéphane, bonjour.
Bonjour, question peut-être facile pour l'expert. J'ai un filtre à cartouche Hayward Extreme et cette année, le joint d'étanchéité fuit.
Oui.
Et je me demandais comment est-ce qu'on fait. Est-ce que pour le moment, ça se remplace la garniture et l'étanchéité? Et si oui, comment est-ce qu'on fait ça?
Bien, tout à fait. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par lubrifier. Vous avez des dans les magasins de piscine un produit Jack Lube.
Mmh, oui, tout à fait.
C'est le nom. Oui. Et puis, oui. Déjà là, de le nettoyer, de le lubrifier, peut faire en sorte que déjà là, ça va arrêter votre fuite. Ou sinon, ben avec votre modèle de filtre, comme vous venez de faire, vous arrivez au magasin puis ils vont vous donner la pièce de remplacement sans aucun problème.
La garniture en caoutchouc est comme pas accessible à cause du ring supérieur, le gros ring rigide noir. Là.
Ça dit
quelque chose?
Oui, 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 oui. Écoutez, ce ring-là, cette bague de serrage, on vient à bout d'être capable de l'enlever pour être capable d'avoir accès...
à la pièce en question.
Oui.
Mm-hmm. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Beaucoup de questions sur la filtration, curieusement. Oui. Existe-t-il des fabricants ou installateurs de piscines naturelles, piscines avec des végétaux pour la filtration, par exemple?
Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on va appeler les piscines biologiques.
Mm-hmm.
Il faut comprendre que ces types de filtrations-là, qui sont utilisés quand même depuis très longtemps en Europe, il y a des gens en aménagement paysager, il y a des gens en piscine, il y a les deux mondes qui vont offrir ce produit-là. On va avoir besoin un petit peu de l'expression « faut avoir le pouce vert ».
OK.
Il faut maintenir une biodiversité dans le système de filtration naturelle. En nénuphar, et puis...
Est-ce que ça fonctionne comme une comme un aquarium, par exemple? Avant de mettre tes piscines dedans, tes poissons dedans, ça prend quand même une couple de mois pour que ça fonctionne comme du bon.
Ben, y a une préparation à faire, oui, qui va faire en sorte que il faut laisser aux végétaux prendre le dessus pour venir en bout de donner une filtration qui est adéquate.
Mm-hmm.
Il va s'adjoindre à ça un bombardement ultraviolet.
Ah, OK.
Oui, aussi, c'est une baignade qui va se faire en eau fraîche. On sait pas une piscine qu'on va pouvoir monter en haut de 80.
Bon, puis les garanties, quand ça gèle, qu'est-ce qui arrive dans ce sens-là? Parce qu'une piscine hors terre, là, ça gèle. Il faut que ça gèle de toute façon. Il y a une façon de le faire. Il y a des ballons qu'on peut installer, là, ou encore des. Moi, je mettais des contenants d'eau de Javel à moitié plein, là,
ouais.
Pour que ça compresse après ça, pour pas que ça comprime les choses. Mais là, il a déchiré sa toile, puis tu t'es accroché.
Oui, les types de sols, il y a des sols qui vont être expansibles et prendre plus de volume l'hiver avec le gel, qui vont déplacer la piscine.
Mm-hmm.
Les types de matériaux, la qualité de l'installation, c'est certain que ce qui va causer ces types de bruits-là sont multiples. Tout simplement, bien vous référer à votre contrat et à la garantie qui est associée à votre produit.
Mais ça dépend du fabricant, ça dépend de plein des choses là, pour la garantie. Là,
hein? Tout à fait.
Ça varie d'un fabricant à l'autre.
D'un détaillant à l'autre.
Bon, l'autre toile qui est accrochée, donc on peut présumer que c'est une piscine creusée là, qui est là. Lui, il chauffe son eau à 92 degrés. Toile qui a environ 3 ans, mais là, elle plisse.
Ouais.
Ça dépend de quoi? Est-ce que c'est parce qu'elle n'aime pas le mauvais pH, à cause de température trop chaude, c'est quoi?
Ça peut être la nappe phréatique de l'eau qui vient par en dessous de la piscine.
Ah!
Ça peut être une toile qui est un petit peu trop grande.
Mm-hmm.
Et il peut avoir voulu aussi des débalancements.
Mauvais ajustement.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Joël-Éric Mignot, consultant expert en piscine. Déjà 10h56, l'émission est terminée, ça passe vite. Merci à Jenny, merci à François et merci à toute l'équipe d'avoir été là, de même que vous. Encore une fois, bonne fête des mères à tout le monde et on vous dit à la prochaine. Au revoir.